Son âge ne le tourmentait pas pour cette expérience. Proust est bien quadragénaire quand il entreprend sa somme et quinquagénaire quand il meurt. Fabrice était sexagénaire quand il se lança. Il avait théorisé son état d'esprit, simpliste, mais éloquent. Savez-vous pourquoi je vais bien? Parce que j'ai passé l'âge d'aller mal. Il n'avait rien à prouver, en tout cas pas qu'il demeura jeune contre toute apparence. Il pensa à ce que Donatien Gros avait écrit sur son blog à propos de Michael Lonsdale lisant, déjouant Proust, avec sa voix vieillie d'enfant. Il saluait la merveilleuse réunion de la recherche qui fait qu'un homme, sur le couchant de sa vie, retrouve sa jeunesse par le livre. Lui ne poursuivait pas cette quête. Il pensait, comme Jean-Laurent Cauchy qui avait lu Albertine disparue, Salgavo, un week-end de janvier 2011, entre samedi 10h et dimanche peu avant 5h, et qui avait rétorqué à l'assistant qui avait eu l'idée de cette représentation et qui réfléchissait sur la distribution. La distribution de quoi? Il me dit, pour que ce soit lu par plusieurs personnes. Je lui ai alors dit, mais tu plaisantes. S'il faut une Madame Verdurin pour faire Madame Verdurin, il ne faut pas le faire, car cela devient une fausse adaptation théâtrale. Comment faire? Me demande-t-il alors. Tu prends une seule personne. Ce n'est pas possible, me rétorque-t-il. Et je lui dis, moi je te le fais. Persévérance, effort continu, focalisation sur un but. Fabrice sentait, savait qu'il approchait de la connaissance parfaite du tout Proust, qu'il ne pouvait pas être plus près de Proust qu'il n'y était parvenu. Il multipliait les exercices de mémoire, les chausse-trappes, prenant n'importe quel feuillet, récitant de chic les mots qui s'enchaînaient naturellement, sobrement, sans angoisse. Il pouvait observer sans appréhension les 38 717 phrases réparties sur 114 ramettes, hautes de 870 cm. Il y avait 9000 feuilles pour du côté de chez Swann, 13000 pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 17000 pour le côté de Guermantes, 20000 pour Sodome et Gomorre, 11000 pour La prisonnière, 7000 pour La fugitive et 10000 pour Le temps retrouvé. Un jour, du début 2010 et quelques, une expression s'imposa à son esprit, Lectio Divina. Mais tout remontait-elle. Son éducation religieuse était loin, et il s'affichait indifférent à l'idée de Dieu. Il n'en était pas moins sensible à l'expression humaine d'un besoin de transcendance, fasciné par la magnificence des édifices érigés pour les célébrer, temples, pyramides, cathédrales. Mysticisme et religion, non. Spiritualité et sacré, oui. Alors que venaient faire ces deux mots latins pour Fabrice? Que fascinait le choix des moines contemplatifs dont il avait entendu parler? Au XIIe siècle, Guy II le Chartreux avait établi les règles de la Lectio Divina. Pilier de la vie monastique. Pratique quotidienne, régulière et efficace, exigeant l'isolement. C'est le temps fort, quotidien, que l'on accorde à l'écoute de Dieu en étudiant les livres saints. Lectio, lire le texte lentement plusieurs fois. Meditatio, réfléchir sur le texte et sur la manière de l'appliquer dans sa vie. Oratio, ouvrir son cœur à Dieu. Contemplatio, écoutez Dieu. La première cherche la vie bienheureuse, la suivante la trouve, la troisième la demande, la quatrième la goûte. Puisque la recherche était imposée comme le livre sacré pour lui, Fabrice n'hésita pas à faire endosser par Proust l'habit divin. Cette méthode lui paraissait parfaite pour couronner ses années d'apprentissage. Une Lectio Divina pouvait sceller sa connaissance. Il prit contact avec un hôtelier du littoral qui possédait une salle de sport et des paillotes sur sa plage privée. à qui il expliqua qu'il avait besoin de s'extraire du monde pour un long travail de réflexion, sans lui en dire davantage. Au préalable, il s'était libéré de toutes les activités qui l'occupaient encore, quelques cours et des rencontres mondaines. Avec Alexio Proustina, il considérait les phrases comme des éléments liquides qui, par la seule force de son regard, se solidifiaient peu à peu jusqu'à geler et se transformaient en autant de petits glaçons stockés dans la chambre froide de son cerveau, formant un mini iceberg ou des pains de glace. Elles attendraient d'avoir à se réchauffer, à glisser dans sa bouche, à couler de ses lèvres avec la fluidité d'un ruisseau. C'était une fois encore assez approximatif, mais la certitude de son efficacité suppléait l'absence de raisonnement global.